Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux. Parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Dans ce 8e épisode, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur, compositeur, interprète, bon, encore quelqu'un qui sait tout faire, j'ai nommé Voyou. Artiste qui balance entre nombre d'influences de variété, de pop, de jazz, non vraiment je vais pas tout citer. Voyou est un musicien qui touche à tout, et pour cause, il a même sorti cette année un album instrumental, qu'on nommerait d'expérimental, et il semblerait que tout lui va bien. En 2019, Voyou sortait son premier album, Les Bruits de la Ville, qui a eu droit en 2020 à une réédition. L'année dernière également est paru l'EP Des Confettis en Désordre, dont est extrait le superbe single Le Confort.
Ce matin, elles te sortent par les yeux, t'avales plus ses regards, t'imprimes plus bien ses mots. C'est comme rentrer le soir et reprendre un autre boulot. Ça donne des idées noires, ça colle bien le bourreau. Tu traînes ton beau cafard et t'as la tête pleine comme un avion.
Histoire d'offrir quelque chose de nouveau encore, Voyou a sorti l'album instrumental Chronique Terrestre, volume 1, dont est extrait le titre Malika, sur lequel la chanteuse de Lada Niva pose tout de même sa voix. Salut Voyou.
Salut, ça va?
Ça va et toi?
Ça va très très bien, merci beaucoup.
Bon, en cette belle journée ensoleillée dans ton studio, j'ai bien envie de te demander quelle est ta daube.
Quelle est ma daube? Ma daube, c'est un morceau de Avril Lavigne qui s'appelle Amouzio, c'est ça? Hein?
Oui. Il hésite.
J'hésite, ouais, parce qu'en fait, pour moi, il s'appelle Yeah Yeah ou je sais pas, c'est des bouts de paroles quoi. C'est le genre de morceau, vu que t'en as honte, et ben, t'oses même pas trop savoir comment il s'appelle.
C'est vrai. Alors, moi, j'ai un peu redécouvert cette musique quand tu m'as dit que t'avais choisi ça, parce que, oui, je la connaissais de loin, mais on en parlait. Moi, en fait, ça date de 2002, donc de l'album Let Go, je crois.
C'est déjà trop d'informations pour moi sur cet artiste.
Mais
j'ai
appris le nom de l'album parce que pour le coup, moi, je voyais tous ses clips et tout quand j'étais gamine, mais j'avais jamais digué Avril Lavigne. Et donc, c'était, oui, voilà, sur le même album que Complicated ou Skater Boy.
Donc, j'imagine son premier disque, non?
Exactement. Okay. Elle avait 17-18 ans.
Ouais.
La go.
Et est-ce que c'est pas le seul disque d'elle qui a marché? Ou bien alors c'est juste qu'après MTV a disparu et du coup on l'a pu...
Moi je me rappelle un petit peu quand même le passage où genre elle a déçu un peu ses fans avec Girlfriend, tu sais, où elle est devenue un peu girly, tu vois.
Okay.
Mais voilà, en fait pour moi il y a ces deux albums, mais je crois qu'il y en a eu un ou deux entre temps, les gros
mais
fans.
Mais tu sais que quand c'est probable qu'elle sorte encore aujourd'hui des albums, mais juste
qu'on ne le sache pas, bien sûr. Mais c'est exactement ça, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs hier avec des potes, c'est... mais il a disparu, lui, il fait plus rien. Et en fait, c'est vrai que souvent, c'est juste que ça nous vient pas parce qu'on regarde plus la télé ou juste on écoute plus ces trucs-là, quoi.
Ouais. C'est, disons que c'est plus compliqué quand c'est des artistes français, par exemple.
Oui.
Si jamais là, tu te rends pas compte que le mec sort encore des disques, ça veut dire que sa carrière est vraiment fichue.
C'est ça, ouais.
dans le cas d'Avril Lavigne, si elle sort des disques et que nous, on n'a pas conscience, il y a peut-être quand même des millions d'Américains qui sont au courant.
Des Américains du Nord, par exemple. Qui savent.
Ou bien même, bizarrement, des énormes succès en Asie ou dans des pays complètement improbables.
Bah oui, parce que Zaz est super connu en Russie, par exemple. Ouais. France Gall, elle cartonnait au Japon.
Ouais, c'est vrai. Attends, il y a qui? Patricia Cass en Russie aussi.
Oui, les Russes, ils les adorent.
Les Russes, ils adorent.
Alors, qu'est-ce qui te touche autant dans I'm With You de Avril Lavigne?
Bah, je sais pas, je trouve que c'est une grande chanson.
Merci, fin.
Voilà, c'est tout, c'est une grande chanson, allez l'écouter et puis laissez-moi tranquille. Non, mais je sais pas, c'est, en fait, je t'avoue que quand j'étais jeune, ce morceau, quand il est sorti, je faisais partie des gens qui disaient que c'était vraiment de la grosse bouse et que c'était nul.
Ah
et
ouais,
machin.
Ok.
Et en plus, paradoxalement, à côté de ça, c'était l'époque où j'écoutais Sum 41, donc le groupe de son mec.
Ah ouais. Quoi?
Et ouais, elle sortait avec le chanteur de Sum 41.
Ah, j'ignorais, mais je suis peut-être la seule à pas le savoir.
Non, il fallait vraiment traîner dans les scènes indées de musique californienne punk.
Ah, je savais pas du tout, ok.
Bah ouais, et tu vois, même Sum 41, c'était mon premier concert. Enfin, le premier concert hors parents, tu vois, genre c'était Henri Dess, mais comme tout le monde. Mais le premier concert où je suis allé tout seul, et ben c'était Sum 41. Et à côté, il y avait donc sa copine, Avril Lavigne, et... je sais pas je sais pas, il y avait un vrai truc de, c'était la musique un peu pour ceux qui étaient soit plus jeunes que nous, soit plus mièvres que nous.
Ah oui, ok.
Ou qui écoutaient vraiment de la musique trop mainstream, quoi. Alors... Et en fait, je suis retombé sur ce morceau. Je suis pas retombé dessus, c'est qu'on me l'a mis dans les oreilles en soirée. J'étais très très saoul et j'étais avec une copine très expressive quand il s'agit de musique et qui aime bien chanter très fort les paroles et tout. Et ça m'a donné des frissons, tu vois.
C'est vrai?
Ouais, vraiment, ouais. C'était une pote à moi qui s'appelle Aminata. Elle a mis ce morceau et d'un coup, le truc est revenu de genre, ah, mais ce morceau, ah, je m'en rappelle. Et puis de l'avoir avec passion chanté ce morceau, je me suis dit, oh là là, mais en fait, il y a un truc qui se passe. Et après, je l'ai réécouté tout seul.
Et la même chose.
Et j'ai des frissons. Et après, systématiquement, en soirée, on mettait ça avec ma pote Aminata. Et on chantait très fort tous les deux parce qu'entre temps,
bien sûr. Voilà.
Et tout le monde nous regardait comme si on était vraiment les derniers des débiles, quoi. Voilà.
Mais c'est trop bien, elle t'a converti, quoi.
Elle m'a converti, ouais. Mais je pense qu'il y avait un élan commun autour du truc. C'est qu'à un moment donné, tu te laisses prendre par, tu sais, ça commence, c'est un peu deep. Tu te rappelles du clip où elle a forcément une capuche sur la tête, un truc comme ça.
Évidemment.
Il y a de la pluie, probablement.
Oui, forcément, il fait nuit.
Il fait probablement nuit. Et je l'ai pas vu, je crois, le clip, mais je suis sûr qu'il y a un truc comme ça.
Ah bah, je pensais que tu l'avais vu.
Non.
Bah écoute, il fait nuit, il y a de la pluie, elle a une capuche.
C'est vrai, bah tu vois, mais en même temps, c'est tellement facile.
Oui, c'est vrai.
Tu t'y attends, et c'est probablement toutes ces facilités qui faisaient qu'à l'époque, je regardais ça et je me disais, non, mais de toute façon, c'est trop de la merde. D'ailleurs, peut-être que je l'ai vu à l'époque et que ça revient comme ça.
Ah ouais.
Mais en tout cas, ça m'a pris au trip, quoi. Franchement, je me suis dit, putain, tout cet enrobage qui me plaisait pas, visuel, de l'image et tout. On parle souvent de l'image des groupes et tout. Et toute l'image, je trouvais ça dégueulasse à l'époque. Et m'avait complètement enlevé la découverte d'une chanson, en fait, assez magnifique, quoi.
Mais c'est dingue. Alors ouais, ce que je trouve fou, c'est, je crois bien que t'es le premier artiste que je reçois qui genre exécrait la chanson, ouais, à l'époque, et qui s'y est mis en fait peu de temps, enfin il y a peu de temps, quoi, parce que souvent les gens se souviennent, tu vois, d'une époque, ouais, qu'ils aimaient, etc. Mais toi, c'était l'époque où t'aimais pas, quoi.
Non, j'aimais pas ça, quoi. Mais après, je sais pas si j'aimais pas ou si juste je me refusais d'aimer, je pense plus que c'est plus ça. Je devais être touché au plus profond de moi-même et être encore plus énervé, tu vois.
T'étais refoulé d'Avril Lavigne.
Ouais, exactement. Un truc de rejet absolu d'un truc qui devait potentiellement déjà me plaire un peu.
Ah, c'est fou.
Je me disais, putain, les mélodies sont super, fais chier.
Merde. J'adore.
J'adore ça, putain, non. Faut que j'arrête tout de suite. J'en parlais tout à l'heure parce que bon, j'expliquais au patron de mon label que t'allais venir et j'expliquais le concept de ton émission. Il me disait que en fait, c'était... On pouvait pas forcément dire, par exemple, j'aurais pu dire mon guilty pleasure ou la chanson que j'adore et que j'ose pas dire, c'est genre un truc de PNL ou machin.
Ouais.
Parce que c'est le cas, et en même temps, ça fait tellement, c'est tellement un succès énorme de notre époque.
Oui, oui.
C'est impossible de dire ça, j'aime ça un peu secrètement, tu vois.
Oui.
Et c'est pas ça que je voulais dire à la base. Alors attends. Qu'est-ce que je disais, quoi? Oui. je parlais de Sum 41, je disais, moi, à l'époque, je kiffais Sum 41 et tout. J'ai réécouté, il y a des morceaux, un morceau qui s'appelle Fat Lip, que je trouve super bien, d'ailleurs. Okay. Et il me disait, mais Sum 41, c'était un peu de la merde, quand même.
Non.
J'ai dit, non, c'était super bien. J'ai dit, non, c'est juste chaque époque à ces ados qui aiment un style de musique qui est un truc que la génération d'au-dessus va trouver ultra pourri.
Oui, oui.
Mais en même temps, tu t'identifies à, je sais pas, à des styles, à une manière de s'habiller.
Oui, 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 carrément.
Et puis la musique, finalement, importe peu. Et ouais. C'est tout le contraire avec Avril Lavigne, pour refaire une petite transition et revenir au sujet de départ.
Putain.
C'est que du coup, tout le style et toute l'image me répugnait. Et en fait, maintenant, je me rends compte que bah, la chanson était quand même super belle, quoi.
Bah, et ouais, elle est, en tout cas, elle est archi deep. Alors, juste pour revenir sur le truc du style, moi, tu vois, j'ai rematé le clip que j'avais pas vu, mais depuis, oui, super longtemps.
Ouais.
Et j'ai rematé des trucs d'Avril Lavigne, donc notamment les gros classiques. Et je me suis dit, c'est fou parce que j'ai jamais été vraiment fan d'elle, même quand j'avais plus ou moins l'âge, entre guillemets, de l'aimer. Mais je me suis rendu compte qu'à l'époque où je jouais aux Sims, j'habillais toutes mes Sims comme elle.
Ouais, elles avaient toutes. Cliquer sur l'option mascara qui coule.
Oui, c'est ça, et puis manche à rayures, etc.
Ah ouais, bah ouais, mais en même temps, c'est, je pense qu'elle a influencé beaucoup de filles à l'époque dans la manière de s'habiller. Moi, ouais. Ma cour de récré au collège était pleine de filles qui avaient des écarteurs et puis du mascara
ouais.
qui coulait, quoi.
Ah ouais.
Voilà,
trop
sacrée époque.
C'était bien. Mais ouais, c'est une chanson super deep. Alors, c'est pareil, moi, je trouve que c'est fort dans la mesure où t'es tombé en amour de cette chanson, tu te l'es admis au moment où ta pote complètement bourrée te la hurlait dans les oreilles. On peut se dire que c'est genre le charme du moment qui aurait pu t'éblouir, mais effectivement le fait de l'avoir réécouté après, ça n'a pas atténué ton sentiment ouais. pour la chanson.
Oui, c'est vrai. Et puis il y a quand même aussi le truc de, tu sais, d'un coup tu te retrouves face à une pote à toi qui est ultra décomplexée sur le sujet.
Ah bah ouais.
Et puis c'est, alors j'ai à cette époque-là j'habitais à Nantes et Nantes c'est une ville qui est très c'est la musique, genre les goûts et tout ça, c'est vraiment un truc, il faut faire très attention à ses goûts, quoi.
Ok.
Il faut que ça soit, il faut que tes goûts soient valables. Il y a plein okay. de trucs très mainstream, je sais pas pourquoi, il faut trouver ça bien, et d'autres trucs où... Enfin, il y a vraiment une dictature du bon goût à Nantes. En tout
bonne
cas,
ambiance.
Dans les... bonne ambiance, ouais. Non, mais c'est horrible dit comme ça, et c'est pas exactement vrai, mais disons qu'il y a... Et c'est peut-être juste les cercles de gens avec qui je traînais aussi là-bas, mais...
Ouais, ouais.
Il y avait un vrai truc par rapport à... au bon goût et tout, et savoir aimer les bonnes choses, et d'un coup tu te retrouves à avoir une pote à toi qui est pas du tout dans les milieux artistiques ou musicaux et tout ça, et qui en fait est complètement décomplexée, et tu te rends compte de la bêtise profonde à laquelle tu fais face tous les jours en te refusant d'aimer des choses juste parce qu'ils représentent quelque chose qui est pas
oui.
qui est pas acceptable ou qui est pas cool pour la société de gens cool avec lesquels tu traînes, quoi.
Je pense que par exemple, il y aura des personnes qui pourront très bien se retrouver dans ta daube à toi, parce que c'était quelque chose qu'elles aimaient pour le coup à l'époque. Je sais pas si tu m'avais dit Despacito, si des gens, tu vois, ça pourrait être différent. Je sais pas.
Despacito, c'est moi je trouve ça horrible par exemple.
Ouais.
Je peux pas écouter ça alors que je suis un gros fan de musique d'Amérique du Sud, tu vois.
Oui.
Tu me mets ça dans les oreilles et je trouve ça me rappelle tout ce que je déteste dans la musique d'Amérique du Sud.
Oui, oui, oui. Alors que tu vois, il y a plein de gens qui vont dire que c'est horrible, mais qui vont quand même la mettre à fond
mais
en soirée
ça, ouais.
et adorer.
Tu sais, après moi, ça me fascine un peu ces trucs-là quand même. Mm. Bon, Despacito, vu que j'ai pas de télé, que j'écoute pas la radio, et ben en fait, c'est des morceaux que je découvre. 2 ans après tout le monde.
Oui.
Ah ça a genre des millions de vues sur des milliards de
des
vues sur YouTube et tout
ouais.
ça. Et j'en ai jamais entendu parler, et ça me fait un peu flipper à ce moment-là.
Ouais.
Je me dis comment je peux faire de la musique et être à ce point-là déconnecté des choses qui marchent mais enfin aussi
marche.
Autant que ça quoi.
Ouais, ouais.
Et attends, j'avais parlé d'un autre morceau comme ça ou d'un autre truc. Oui, voilà. Tu vois récemment là, il y a eu en France le record de la chanson la plus vendue de tous les temps.
Oui.
Qui est bande organisée de Jul et tout ça.
Oui.
Et en fait, j'ai regardé une bonne quinzaine de fois le clip en essayant de comprendre. Vraiment juste en essayant de comprendre. Et je peux pas, tu vois, il y a un
tu
truc
pas
où
compris.
C'est... Bah, je comprends potentiellement ce qui peut faire kiffer les gens, mais
oui.
Je comprends l'image, je comprends le clip, je comprends plein de trucs, mais je comprends pas la musique en soi,
oui,
tu
oui,
vois.
Oui, oui, oui.
Et en même temps, je peux pas venir ici et dire alors c'est quoi ta dope? Bah c'est bande organisée. Impossible.
Oui non, c'est vrai, c'est vrai.
C'est impossible. Alors que pour moi ça, c'est, par exemple, c'est une dope qui marche quoi.
Oui oui.
Et en même temps, c'est très prétentieux de trouver que quelque chose est nul, surtout quand ça marche.
Bah oui, bah écoute, après oui, chacun son avis sur la question. Ouais. Mais alors, pour revenir à un truc moins gay, donc cette chanson d'Avril.
Ouais. Tu vas m'apprendre la signification, parce que.
Alors, j'allais te demander si elle te parlait, notamment de par ses paroles.
Bah alors, déjà, moi, j'arrive pas à écouter les paroles des chansons.
Ok.
Enfin, j'entends les notes et les mélodies, mais pas du tout ce que raconte la chanson.
Ok.
Et quand c'est en anglais, bah c'est encore pire, quoi, parce que c'est pas ma langue natale.
Oui.
Et du coup, cette chanson, à la fois, je sais absolument pas de quoi elle parle, et à la fois, j'ai l'impression de comprendre ce qu'elle me dit. Tu vois.
Oui, elle te parle.
Elle
quoi,
me parle, vraiment. Quoi. Je sens un truc de solitude, tu sais, de solitude profonde, de personne perdue, en recherche d'elle-même, et qui d'un coup décide, je sais pas, comme de se lâcher, de prendre possession d'elle-même, c'est un morceau qui pour moi parle d'émancipation.
Ah.
Peut-être que pas du tout, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens, parce que ça commence très dark avec cette image de la capuche sur la tête et tout. Et à la fin la meuf se lâche, quoi, genre elle gueule tout ce qu'elle a, quoi.
Elle hurle.
Ouais.
Écoute, t'avais pas tort en tout cas au début. J'ai écouté les paroles, etc. Et j'ai l'impression que c'est une meuf qui dit, en gros, donc I'm with you, mais en fait elle se met en scène au début dans ses paroles en disant qu'elle attend une personne, et on a l'impression que peut-être que c'est un mec, tu vois, qui va pas venir ou je ne sais quoi.
Okay.
Mais en fait, elle attend juste de la compagnie et elle se sent très seule, effectivement, tu vois.
OK.
Voilà. Donc c'est un truc très dark. Alors, je sais pas si peut-être qu'il y a un peu d'émancipation, parce qu'en même temps, tu vois, il est en train d'assumer le fait qu'elle a pas envie d'être seule. Donc d'un côté, pas, tu vois, se voiler derrière un truc, et voilà, et donc je te demandais ça parce que je te demandais si en gros cette chanson tu l'écoutais genre prom dog tout seul chez toi, quoi, quand vraiment ça va pas.
Non.
Ou alors tu vas l'écouter dans la rue en mode pour te mettre dans l'entrain, parce que au bout d'un moment ça finit en gros morceau de rock, quoi, tout simplement.
Ouais, bah en fait j'ai jamais eu ce rapport à la musique, à écouter des chansons en particulier, parce que j'ai un état particulier.
OK.
Et du coup j'écouterai pas ça parce que je vais mal, mais je peux écouter ça tout seul chez moi.
Ouais, d'accord.
Parce que je trouve ça ultra bien foutu, quoi, les violons au début avec la petite guitare et tout, les mélodies, je trouve ça trop beau, et c'est inspirant. Et après c'est je sais pas, il y a un truc dans le son et tout, et je pense aussi fondamentalement dans tout ce qui te provoque des émotions, il y a aussi des rappels à quelqu'un que t'as été à une période ou...
Oui.
Et du coup, là, c'est étrange ce morceau, parce que j'ai détesté ce morceau quand j'étais jeune. Mmh. Et en même temps, il me rappelle quand même une époque précise où j'étais jeune.
Bien
et
sûr,
où,
ouais.
Il me rappelle pas que le moment où j'étais à Nantes à 25 ans avec ma pote Aminata à chanter ça très fort dans les soirées quand on était sous. Il me rappelle aussi, genre, toute une période de ma jeunesse et de quand j'habitais encore à Lille. Je sais pas, genre vraiment un moment très précis, quoi.
Ah, donc, ouais.
Y a un côté très Madeleine, alors que c'est un morceau qu'à l'époque j'écoutais pas du tout, quoi.
Ouais, c'est dingue, effectivement. C'est la notion du souvenir, sauf que contrairement à d'autres, ça te renvoie à cette époque où tu le détestais. Mais
mais quand ça me renvoie à cette époque,
tu te bases sur ta haine, en fait.
Ma haine est motrice. Non, mais je sais pas. Et puis je ressens aucune haine quand je l'écoute maintenant. Et
oui.
Je me rappelle cette époque, mais tout ce qu'il y avait de, tu vois, tout ce que j'aimais dans cette époque. Et je me rappelle d'ailleurs, j'ai un souvenir, du coup je mets ça dans une époque précise où je venais juste de déménager à Nantes et j'avais encore mon père habitait à Lille.
Okay.
Et du coup je faisais des allers-retours entre les deux assez souvent pour aller passer des week-ends avec lui et tout.
Mm-hmm.
La garde partagée, tu connais.
Oui.
Peut-être pas. Mais...
Non, mais je vois de loin.
Je disais tu connais pour tous les gens qui connaissent.
Pour tous les parents, les enfants de
divorce. Génération divorcée.
Est-ce que vous êtes là?
Et en fait, j'ai souvenir d'aller donc à Tourcoing chez mon père. Ah non, à Roubaix chez mon père.
Ok.
C'était très important que ce soit.
Oui, oui, j'ai bien vu.
Non, mais c'est. Enfin voilà. Et donc j'arrive, je suis dans son salon et il a le truc que j'ai jamais eu chez moi, les chaînes qu'il y a en plus là. Comment ça s'appelle, le câble?
Ah oui,
la parabole.
Ouais. Bah le câble, c'est bien.
Le câble, quoi. Enfin, tu vois, les chaînes supplémentaires qui vont après neuf, tu vois.
Oui, exactement.
Et il avait ce truc-là, il avait pris ça, je sais pas, il était tout seul à Roubaix, il s'est dit, je vais me faire un kiff, je vais prendre des chaînes. Et il y avait MTV. Et je suis tombé sur un live entier d'Avril Lavigne à la télé.
Oh mon Dieu.
Ouais. Et en fait, je jubilais à l'intérieur. J'étais ultra content parce qu'elle chantait trop mal. Et ça me confortait dans l'idée que je devais pas aimer ce qu'elle faisait, cette meuf, tu vois. Vraiment, elle chantait comme une casserole, quoi.
Ah ouais, t'étais un hater.
J'étais un hater, ouais.
Et t'as essayé de le retrouver, ce live, sur YouTube, par exemple?
Non, parce que, disons que, je sais pas quel en serait l'intérêt, vu que c'était vraiment nul.
Bah,
Juste pour revoir.
Tu te découvrirais, dans ta haine, une phase de, je sais pas, de tolérance, tu vois.
De tolérance, peut-être. Ouais. De tendresse aussi,
voilà,
absolue.
Voilà. Exactement. C'est ça, de tendresse, genre, ah, elle chante mal, mais je l'ai.
Bah ouais, je sais pas. Et puis en même temps, elle était hyper jeune. Enfin, c'est souhaitable à personne, hein, de se retrouver aussi jeune, propulsé dans des stades à jouer devant des gens comme ça et être filmé par MTV. Enfin, j'imagine qu'elle était extrêmement stressée. J'imagine qu'elle avait pas eu autant de concerts que tous les musiciens que toi t'as reçu par exemple, qui ont fait des tonnes et des tonnes de concerts avant de se retrouver dans une salle de 500 personnes.
C'est vrai, ouais.
Mais genre des centaines de concerts, et elle, je pense qu'elle a été propulsée d'un coup méga star. Elle avait jamais fait de concert et elle doit se retrouver à apprendre à chanter avec. Avec sa voix dans des retours ou dans des ear monitors ou je sais pas quoi. Et c'est quand même, c'est chaud, hein.
Oui, c'est vrai. Mais comme on le disait, c'est vrai qu'elle avait 17, 18 ans quand la chanson est sortie. Mais peut-être que même au moment de l'enregistrement, etc., elle en avait peut-être 16. C'est vrai que tu te dis, bon, comment est-ce qu'elle aurait pu commencer encore plus tôt? Bon, après, t'as l'exemple de Billie Eilish, genre à 13 ans, des trucs comme ça. Mais c'est extrêmement rare, quand même.
C'était pas à 13 ans?
Je crois que Ocean Eyes de Billie Eilish, elle avait 13 ans, ouais.
Et elle était déjà superstar à ce moment-là?
Bah, je sais pas, je la connaissais pas, moi, à cette époque.
Ouais. Parce que moi non plus, j'ai l'impression que c'est arrivé quand même un peu...
Je sais pas, je suis arrivée un peu tard, je crois, avec Billie Eilish, moi, pour le coup, mais...
Oui, moi aussi, c'est vrai.
Mais effectivement, Avril Lavigne, bah oui, parce que toi, t'as pas connu Despacito avant cette année, par exemple. Non, mais c'est vrai qu'Avril Lavigne, je pense que c'est un peu l'effet, comme on le disait, tu vois, un peu Britney, genre je sors mon premier morceau et d'un seul coup, je suis propulsée, quoi.
Bah ouais. Et puis, en plus, alors, pour le coup, pour sa défense, à Avril, à l'époque aussi, à la télé, tous les lives qu'on voyait, les voix, elles, c'était des voix enregistrées, c'était du playback.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, d'un coup, tu te retrouves à avoir une meuf qui chante, genre, sans playback. Et si jamais je regarde ça maintenant, peut-être que je me dirais que c'était pas si faux que ça. C'est juste que la télé, c'est horrible parce que toutes les faussetés, tu les entends.
Oui, tu les entends bien.
Ultra, ultra bien. Et enfin voilà, c'était vraiment de la médisance d'ado qui a envie, je pense, de s'auto-convaincre qu'il aime pas un truc qui, en fait, il aime bien peut-être à l'intérieur.
Oui, mais je vois très bien. Je vois très bien le truc. Et puis de toute façon, les adolescents sont cruels.
Les ados sont cruels, ouais. C'est vrai.
Ils sont horribles. Donc, ils se basent beaucoup sur leur haine des choses.
Ouais,
hein,
c'est vrai. Hein. Mais c'était quelque chose parce que c'était la première fois que j'allais tout seul à un concert. Ouais. Enfin, j'y allais pas tout seul, j'étais avec un pote.
Oui, mais sans
parents. Et le père du pote, qui était genre dans le fond de la salle.
Ah,
fumer des guinces parce qu'à l'époque, on pouvait encore fumer dans les salles. Et nous, on était devant et tu sais, on avait mis... on était à la Rock à Gogo, acheter un bracelet à pic pour être comme les autres, tu vois.
Ouh là là.
On avait mis notre plus beau sweat à capuche. Oh. Et je me rappelle très bien, alors je sais pas comment décrire ça au micro, mais on avait vraiment passé tout le concert à faire le signe du rock, tu sais, avec
bien
les doigts.
Bien sûr.
Quand tu lèves, comment il s'appelle ce doigt-là?
C'est l'index, n'est-ce pas?
Et celui-là?
Et ça, c'est l'auriculaire.
L'auriculaire. Donc tu rentres le pouce, tu lèves l'index et l'auriculaire. Et tu as un bon signe rock. Et on avait passé tout notre concert le bras levé avec notre machin là. Et vraiment à faire comme ça, quoi.
Ouais. Et juste plus de circulation dans les bras.
Plus de circulation dans les bras, mais par contre, une vraie circulation d'énergie dans tout le corps.
Ah, tu m'étonnes. Et là, si un beau jour, il n'y avait plus de Covid-19 et on t'offrait par exemple une place pour aller voir Avril Lavigne, tu irais?
Je ne suis pas sûr.
Ah ouais.
En fait, je sais pas.
Même pour faire l'expérience.
Ça dépend. Si jamais c'est Avril Lavigne qui revient, mais qui est complètement has-been et qui joue dans une cigale à moitié pleine, par exemple.
Ouais.
Je crois que j'irai pas parce que j'aurais pas envie de détruire un truc.
L'image que j'en ai fait.
Si jamais on me dit il y a Avril Lavigne qui passe au Parc des Princes. Il y a une place pour toi, j'y vais sans sourciller, quoi.
Et tu pleures sur I'm With You, donc, après.
Peut-être, ouais. Après, j'ai déjà du mal à rester à un concert que j'adore.
Ah ouais?
Ouais. J'ai beaucoup de mal à rester plus de 3 chansons, quoi. Vraiment.
C'est vrai?
Ouais.
Quel est ce phénomène?
Je sais pas, il y a un vrai truc de... Je sais pas comment expliquer ça.
D'accord.
Quand je vais dans une salle de concert, même si c'est un truc que j'adore, au bout de 3-4 morceaux, j'ai besoin de bouger, de partir de là, de faire autre chose.
Tant que c'est pas ton concert, ça va.
Ouais, c'est ça. Non, mais surtout, heureusement que les gens sont pas comme ça avec mes concerts. Me dire que je vais me farder tout un live d'Avril Lavigne pour un morceau qui potentiellement va me faire de l'effet.
Oui,
je suis pas sûr, quoi.
Oui, je comprends. Alors OK. Et donc toi t'étais grave dans cette phase un petit peu est-ce qu'on peut dire que t'étais un emo kid, c'était Sum 41?
Non, j'ai jamais été emo kid, j'ai jamais été skater non plus.
OK.
Alors j'ai acheté un skateboard et j'ai essayé d'en faire, mais j'étais vraiment nul.
OK.
Et puis j'étais pas assez tête brûlée pour être un skater, je pense.
OK.
Peut-être pas assez cool aussi, disons-le. Et non, en fait je sais pas, je portais des baggies quand même, j'avais des chaussures de skate, genre des gros Osiris bien dégueu là. Et puis des t-shirts que j'achetais à Rockagogo, donc j'en avais un de Korn, un de Marilyn Manson.
Mm.
Mais c'était vraiment des trucs de style, tu vois, parce que tout le monde s'habillait comme ça et je me disais que c'était cool de s'habiller comme ça. Mais en vrai, je rentrais chez moi et j'écoutais Manu Chao et des trucs comme ça, tu vois. Donc j'avais pas forcément le style de... Enfin si, j'écoutais... C'était l'époque du Move, c'était très populaire le Move à l'époque. Il y avait les filles du Move, c'était trop cool.
Oui.
Et du coup, ils passaient de ces musiques-là, Blink...
Oui.
Green Day...
Oui.
Que j'ai jamais aimé d'ailleurs, bizarrement. Tous les autres trucs que Sum 41, j'ai jamais réussi trop.
Ah ouais, t'aimais pas Green Day, t'aimais pas Good Charlotte?
Non, je détestais ça, vraiment, j'aimais pas... Un truc qui me plaisait pas, quoi.
Ah ouais.
Après, alors ça c'est encore autre chose, mais faut savoir que j'ai une aversion profonde pour tout ce qui vient de la musique country et folk américaine, vraiment. C'est terrible dit comme ça, mais c'est un truc que je ne contrôle pas. Il y a des chansons que je trouve sublimes, mais la country music c'est impossible pour moi d'écouter ça. Je comprends pas. Je fais des efforts hein, vraiment, mais
j'essaie.
ça me procure absolument rien.
Ok.
Ça me procure pas de d'émotion et toute la folk mainstream américaine aussi, donc qui vient aussi de tout ça et tout ce qui émane de ça, de cette musique là. Donc il y a un truc dans les harmonies, tu vois, dans les accords, dans les manières de faire des mélodies et tout. C'est des musiques avec lesquelles j'ai du mal parce que je pense que c'est les références de base qui sont pas du tout ancrées en moi et qui du coup tout ce qui en découle. C'est très compliqué.
Ouais, je vois très bien, ouais.
Et Avril Lavigne, pour moi, fait un peu partie de ça quand même, tu vois.
Ben, j'allais te dire, au début de I'm With You, c'est très folk comme chanson.
Ouais, mais alors, c'est compliqué de dire folk parce que folk, ça veut un peu tout et rien dire, mais.
Oui, c'est vrai. Mais il y a une guitare, alors là, je suis pas musicienne, moi, mais il y a une guitare qui fait genre folk au début.
Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Mais après, je pense que c'est vraiment c'est parce qu'elle est pas américaine.
Elle est canadienne.
Elle est canadienne et du coup, tout ce qui vient du Canada, la folk canadienne et tout ça va, pas de problème.
Ah oui, ok, donc d'accord.
Non, j'ai été quand même élevé par une mère avec bien révolution sud-américaine et tout.
Oui.
Et du coup, l'ennemi absolu. Ah, moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Che Guevara et je bouffais des documentaires sur les révolutions cubaines et
bien sûr.
Et les révolutions en Amérique du Sud.
Ouais.
Et j'adorais ça.
D'accord.
Et je détestais les Américains.
Ouais.
Et pour moi, les Américains, c'était des mecs avec des chapeaux de cow-boy qui chantaient de la country, quoi. Et du coup, c'était vraiment un truc que j'aimais pas, quoi.
Avec une paille entre les dents.
Avec une paille entre les dents, ouais. Après, j'étais fan de Culberry Finn, tu vois, mais quand même. Non, de Tom Sawyer, alors qu'il représentait tout ça.
Grave.
Mais je sais pas.
Forrest Gump aussi, tout ça.
J'étais trop fan aussi.
Mais tu savais que Avril Lavigne était canadienne à l'époque ou pas?
Non,
parce que tu vois, voilà, moi je l'ai appris récemment. Pour moi, comme je te disais, elle était américaine. Mais tu crois que si à l'époque t'avais su qu'elle était canadienne, t'aurais peut-être plus été tolérant envers elle?
Non, parce que en fait, mais ils sont canadiens aussi, Sum 41 ou pas du coup?
Je sais pas. C'est toi qui es fan.
Mais je suis pas fan, ça va.
Moi, t'étais fan de ouf.
Ouais, j'étais fan, quoi. Mais ça a pas duré très longtemps, mais j'étais fan quand même. Non, je pense en fait je parle de ce truc des révolutions sud-américaines et de l'ennemi absolu qui est les États-Unis, mais en fait j'ai aussi vachement mis d'eau dans mon vin par rapport à ça, c'est que je trouve quand même qu'il y a tout un modèle américain qui est clairement le mal. Et pour autant, il y a aussi toutes les artistes américains sont extrêmement, extrêmement forts, extrêmement sensibles et extrêmement critiques de la société dans laquelle ils vivent aussi.
Oui, carrément.
Et donc du coup, tout ça se
ça fait un équilibre, un petit peu.
Ouais, c'est équilibre.
Oui, je vois.
Donc, je déteste pas du tout les États-Unis ni les Américains. Vraiment pas, au contraire. Mais bon, j'aime pas leur manière de traiter les humains. Voilà, c'est tout.
Et t'aimes pas trop la façon dont ils font de la country, du coup.
Ouais, bah, non, mais je pense que ça, c'est un truc, C'est des musiques, c'est comme la musique irlandaise, c'est des trucs où mes parents, ils m'ont dit très, ça c'est, ça. Et du coup, j'étais, c'est nul. Et tu te laisses avoir par les goûts de shot de tes parents, fait, chacun ses goûts de shot, tu vois.
Oui, carrément, carrément. Et tu crois que tes parents, ils approuveraient ce Avril Lavigne coming out?
Je pense pas du tout. Peut-être mon père, il verrait un truc un peu cool dans les arrangements de violon. C'est vraiment un musicien du conservatoire, mon père.
Donc, d'accord, ok.
Donc du coup, il a un truc très analytique de la musique et finalement, il écoute pas tant de musique que ça, tu vois.
D'accord.
Et par contre, ma mère, elle dirait oui, pourquoi pas, mais ça, je vois pas l'intérêt de cette chanson.
Oui, d'accord. Et alors, la réception de vos amis quand toi et ta pote vous êtes mis à chanter en chœur à l'unisson cette chanson d'Avril Lavigne, quelle était-elle?
Bah, à ton avis.
C'est de la merde.
Ouais, ça, mais les gars, tu sais, en fait, il y a plein de, c'était aussi, comment dire, chaque époque a ses merdes qui reviennent et qui deviennent genre le truc cool à mettre en soirée.
Ouais.
Il y a quand même des morceaux, on a oublié que c'était des merdes à la base, hein. Des
ouais.
Trucs,
Comme quoi, dis-moi, toi, ce que t'en penses d'ailleurs. Tu penses à quoi?
Mais en fait, tu peux pas dire que c'est des merdes parce que c'est pas des merdes.
Mais on est d'accord. Genre, tout est entre guillemets, hein.
Toute l'eurodance des années 90. Qu'on écoute aujourd'hui, genre, les bras levés en chantant en chœur, genre, je sais pas, Gala, par exemple, genre, tout le monde a conchié Gala pendant des années, et d'un coup, tout le monde a décidé que c'était ultra cool, tu vois.
Big up à Charles de l'Impératrice qui adore Gala.
Mais je comprends, Gala, il y a des trucs super. Mais c'est juste que, en fait, il y a des périodes où cette musique existe, et cette musique est submergée par cette musique. C'est-à-dire que t'as que ça, partout, tout le temps. Et à la fin, t'en peux plus et tu décides que c'est de la grosse merde.
Ouais, t'en as ralac.
Ouais, t'en as ralac. Je sais pas ralac quoi, mais t'en as ralac.
Ralac casquette.
Ralac casquette.
T'en as ralac. Genre, mais
ralac culotte.
C'est marrant ce que tu dis parce que moi, je me rappelle que dans les années 2000, donc époque MTV entre Pimp My Ride ou des trucs comme ça.
Ouais. My Sweet 16.
Allez, Next aussi.
Next. Hello, I'm Brandon. I have huge muscles. And I love girls, okay?
Next!
Ah, she was not pretty.
Voilà, donc entre ça et ça, il y avait des clips. Tu vois, moi, j'ai pas été élevée en tout cas exactement de cette même façon, mais je crois que c'est parce que je prenais beaucoup mon frère en modèle. C'est pareil, j'avais développé une espèce de genre haine automatique pour tout ce que faisaient les États-Unis.
Ouais.
Et moi, c'était pas tant Avril Lavigne. Même si je pensais qu'elle était américaine, mais c'était Britney Spears. Pour moi, Britney Spears, c'était de la dope, tu vois. Fut un temps, parce que en plus petite, etc. Et puis vraiment, j'étais pas développée dans mes idées ou quoi, mais elle était souvent dénudée ou des trucs comme ça. Et j'étais en mode, bon, c'est vraiment de la merde, quoi, genre voilà.
Et les gens, de toute façon, ils écoutent juste parce qu'elle monte ses seins.
Bah voilà, c'est tout. Et alors maintenant, on en pense ce qu'on en veut, mais tu vois, je dis spécifiquement à mes artistes, aux artistes que je reçois, pas Britney Spears, parce que je sais pas si pour les autres gens de mon âge, c'était considéré comme de la daube aussi à l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est que c'en est plus trop, tu vois.
Dans ce cas, il y a énormément de choses. Tu peux considérer que ça n'a jamais été de la daube. C'est des mouvements de société qui font. C'est des mouvements d'humains plutôt qui décident que c'est de la daube, des groupements de gens. Moi, Britney Spears, c'est pareil. Hein. Quand j'étais jeune, je trouvais ça nul.
Ouais.
C'est de la merde. Mais en fait, j'écoutais pas.
Ouais.
Je trouvais juste ça nul parce que j'avais décidé que c'était nul.
Oui, oui.
Parce que c'était genre c'était le suprême mainstream des États-Unis, le McDonald's de la musique.
Oui, c'est ça.
Et du coup, c'était l'enfer sur terre pour moi.
Ouais.
Et en fait, mais c'est incroyable Britney Spears en vrai.
Ah mais c'est dingue hein.
C'est génial. Même si j'aimais pas ce qu'elle faisait,
ouais.
J'avais confiance. J'avais conscience de l'enfer que devait être la vie de cette meuf quoi. Cette espèce de truc de personne sacrifiée pour une cause qui en fait enfin, tu vois, elle a pas lieu d'être, quoi.
Ah oui, oui, complètement. Non, mais oui.
Pour l'argent, en fait, tout simplement.
Elle a vraiment été jetée en pâture, pour le coup. Il y a plein de gens qui ont pensé, il y a 2-3 ans, qu'Avril Lavigne était morte et qui a été remplacée par un sosie.
Mais non.
C'était un gros truc, hein, je te jure.
C'est incroyable.
Et genre, les gens faisaient, plein de parallèles, je ne sais quoi, genre, comme quoi, elle était morte et elle avait été remplacée.
C'est horrible de faire ça.
C'est affreux, en fait. T'imagines, elle tombe sur ça, et c'est sûr qu'elle est tombée dessus. Genre, tout le monde pense que t'es morte et que...
C'est horrible.
Les gens sont fous.
Quel enfer, quoi. Les gens, quand même, ils sont très intrusifs hein, dans la vie des autres.
Enfer, hein. Enfer. Mais mais tu vois, moi, je savais pas qu'elle était sortie avec le chanteur de Sum 41. Donc,
Écoute, alors ça, bon, ça c'est moi aussi, j'étais un connard intrusif. Hein, il y avait des photos à un moment qui traînaient sur Internet du chanteur de Sum 41. Si tu tapes chanteur de Sum 41 maintenant sur Google, tu vois la tête qu'il a eue à une période, parce que c'est une des dernières photos qui est restée, ouais, où il était complètement ravagé par l'alcool et la drogue, quoi. Un peu à la Pete Doherty, quoi. Mais oui, des mecs qui ont connu beaucoup de succès, qui d'un coup ont plus rien du tout. Et du coup, tout ce qui leur reste, c'est la drogue.
C'est et horrible. L'alcool.
C'est horrible, ouais, mais c'est un métier horrible, hein, en vrai. Superstar. Je parle pas de musicien.
Oui.
Superstar, ça a l'air d'être un métier horrible.
C'est un métier horrible. Aidez-moi, s'il vous plaît.
Non, moi, je suis pas du tout une superstar. Franchement, je peux marcher dans la rue, y a pas de problème, quoi.
Ok, bah, écoute, super. Je suis contente en même temps de savoir que, genre, t'avais pas spécialement saisi la portée des paroles de cette chanson, parce que c'est un truc qui est vraiment viscéral, quoi.
Ah ouais?
Pour la chanson.
Alors, est-ce que je peux te demander quand même ce que toi, elle te fait ressentir, cette chanson?
Oula!
Non, mais est-ce qu'elle a touché quelque chose? Est-ce qu'elle t'a rappelé des choses? Est-ce que...
Non, alors, forcément,
elle... non,
bonne journée.
Au revoir, c'était nul.
c'était nul à chier. Non, elle, n'ayant jamais été spécialement fan ou touchée par Avril Lavigne, ça a pu me rappeler cette époque, justement, comme on disait, tu vois, MTV, etc. Moi, j'aimais bien regarder ça avant d'aller au collège, des clips, voilà. En revanche, à une époque, je devais avoir 8 ans, donc vraiment, c'était l'époque du premier album. Je lisais Mini Mag, qui est devenu, ouais, Witch Mag après. Bon, les gossures, okay, vous connaissez. Et c'était une espèce de magazine soi-disant un petit peu people, mais avec des BD dedans, donc dédié soi-disant aux jeunes filles. Et dedans, parfois, il y avait des petits fun facts sur des stars, tu vois. Genre, par exemple, il y avait une fan qui avait envoyé « Moi, j'adore Garou, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur Garou ?» Et t'avais des trucs, genre sa date de naissance, son signe astrologique. Il y avait même...
Ça, c'était vraiment avant Internet, quoi. Parce, ouais, que maintenant, tu vas sur le Wikipédia, t'as tout.
Ah bah, tu connais tout, tu, ouais, sais tout. Et même que Garou, je sais que, genre, sa principale qualité, c'est qu'il est romantique, et que son principal défaut, c'est qu'il est trop romantique.
C'est tellement mignon, Garou.
Et du coup, il y avait un truc sur Avril Lavigne, et j'avais vu que il y avait une petite rubrique « Si tu veux lui écrire, écris à telle adresse ». Et pour moi, 8 ans, j'étais là genre « Quoi ?»
Tu peux écrire Avril ?
Oui, c'est ça, tu peux vraiment lui écrire. J'étais
Maman,
là,
genre, oh, toi du papier à lettres.
Littéralement, moi.
Non, c'est fou, quand même.
Et je voulais lui écrire parce que j'étais en mode « Putain, elle est super connue et tout, et on peut lui écrire », alors que je l'écoutais pas trop. Donc, tout ça pour dire que ma mère m'a dit... De un, non. Et de deux, tout ça pour dire qu'en fait, oui, cette chanson, elle m'a rappelé une certaine époque. Donc j'étais là, oui, ça me rappelle ça, je suis un peu nostalgique de tel moment et tout. Pas de tout, hein, parce que le collège, c'est pas heureux pour tout le monde.
Mais ouais, c'est clair, c'est heureux pour qui déjà?
Oui, voilà. Et puis en plus, j'étais pas au collège, en fait. J'étais en primaire, carrément, à cette époque-là. J'étais un peu un baby. Mais... Non, la chanson en soi, ce serait te mentir que de te dire que genre j'ai ressenti vraiment un truc.
Ouais, okay.
Après, tu vois, je l'ai écoutée une première fois, ok. Déjà, elle m'est revenue, donc ça, ouais, ça m'a touché un petit peu de voir que j'avais cette mémoire-là. Et après, j'ai regardé les paroles et je l'ai réécoutée. J'étais en mode bon, c'est mignon en vrai. Ça m'a pas touché, mais c'est pas un moment désagréable pour autant.
Ok.
Quoi. Voilà.
Ok.
C'est pas la pire daube que j'ai pu recevoir, mais je citerai pas.
C'est quoi la pire daube?
Je dirais hors micro.
Moi, je dois dire ou pas des trucs.
Tu peux
parce
balancer.
Que j'ai écouté des épisodes, hein.
Balance. Alors, toi, est-ce que t'as aimé une daube que t'as découverte ou je ne sais quoi dans les épisodes?
Dans les épisodes, alors, celle de Charles de l'Impératrice. La Rousseau, quand, ouais, même. Bah, c'est impossible. Moi, je trouve, tu vois, pour le coup, j'ai écouté ça et je me disais, c'est impossible de dire... Enfin, si, c'est vraiment une daube, quoi, ce morceau.
Oui, d'accord, ok.
Mais c'est une daube que tout le monde a chanté très fort à un moment donné de sa vie, non?
Bah, je sais pas. En même temps, je pense que c'est peut-être que je suis peut-être la génération juste en dessous pour ça, tu vois.
Ouais.
Parce que moi, j'aimais bien, mais à l'époque où j'étais adolescente, ou voilà, c'était déjà plus exactement l'époque, ouais, La Rousseau, tu vois.
Mais j'ai l'impression que c'est même pas un truc où tu décides d'aimer ou de pas aimer, c'est juste ça existe, c'est là, c'est dans ta gueule tout le temps.
C'est l'évidence.
Oui, c'est l'évidence. Y a pas une maison qui avait pas le CD de titre, y a pas un foyer qui n'écoutait pas ça, où il y avait au moins un enfant ou je sais pas qui écoutait ça.
La Rousseau, c'est ton oxygène, quoi.
C'est l'oxygène du monde. Putain, le crédit qu'on donne à La Rousseau d'un coup. Non, mais ce morceau, c'est un immense tube. Et en fait, c'est toujours ce truc à la question à se poser, c'est oui, effectivement, moi je trouve que c'est une daube aussi.
Mmh.
Et en même temps, comment tu peux dire d'un truc qui a à ce point-là été un énorme tube que c'est une daube? Soit ça veut dire que tes goûts sont différents de la majeure partie des gens.
Ça.
Ou bien alors que tout le monde s'est dit, on va écouter cette merde tous ensemble et ça va être trop bien.
Tu sais, moi je crois qu'il y a moyen que ce soit ça en vrai.
Ouais, tu sais, il y a quand même certains succès de la musique qui dépendent en grande partie du marketing des labels,
oui.
Tu vois.
Oui, oui.
T'sais, au plus tu mets énormément d'argent sur le projet,
oui.
Au plus ça peut devenir un truc gigantesque. Mais c'est en vrai. Même temps, ça serait quand même... Ça serait quand même dégueulasse de retirer à la Rousseau son succès, par
carrément.
Exemple.
Carrément. Mais d'ailleurs, je pense que la raison pour laquelle Charles a choisi ça, c'est parce que ça appartient... C'est vraiment ancré dans son époque,
ouais.
Par contre, tu vois.
Ouais.
C'est peut-être devenu un peu ringard maintenant, pour maintenant. Mais oui, si j'avais fait ce podcast, ce qui aurait été une émission France Inter à l'époque, il aurait jamais dit la Rousseau, je pense.
Ouais, tu crois?
Ouais, je pense pas.
Je sais pas. Mais n'empêche, ça m'a fait me dire quand même que... Entre, par exemple, toi, Charles et moi,
ouais.
On est vraiment, je pense, tous à 2-3 années d'écart les uns
c'est
les
ça,
autres.
C'est ça, ouais.
Toi, t'es né en quelle année?
Moi, je suis né en 95.
95? Mmh. Donc, 5-6 années d'écart.
Donc, 2 ans et demi.
2 ans et demi, moi, je suis hyper jeune et tout. Non, mais tu vois, entre 95, ouais. Moi, je suis de 89, et lui, il disait
1943.
44, je crois que c'était...
Ouais.
Donc
bisous,
il est vraiment fou, ouais, voilà. Il tient très bien à l'âge d'ailleurs, cet homme. Et tu vois, finalement, il y a très peu d'années, donc c'est des morceaux, on les a tous connus,
ouais.
Mais on avait des âges différents.
C'est ça.
Et du coup, l'impact que ça a eu sur nous, eh ben, est complètement différent.
Oui, oui, oui. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, je pense que tu vois, pour ma génération, la Rousseau, c'est plus de la dope que pour la tienne, et encore plus que pour la sienne, effectivement.
Et ouais. Exactement.
Ouais, complètement. Mais c'est pour ça, il y a tellement de choses qui rentrent en compte dans la définition de la dope, quoi, finalement.
Ouais.
Mais seulement, tu vois, je pense que si, non, parce qu'en même temps, j'ai des amis géniaux, mais, si tu mettais ça en soirée, ou, ça t'est déjà arrivé d'arriver à une soirée où tu connais pas grand monde, tu vois, ton pote va arriver, mais il est pas encore là, du coup, c'est un peu gênant.
Et d'aller à l'ordi et de mettre la Rousseau à tout le monde, c'est ça?
Voilà. Et si tu fais ça, peut-être que les gens vont se retourner vers toi. Alors, pas les gens de ton âge, mais les gens de mon âge, se retourner vers toi en mode, qui es-tu?
C'est qui ce mec?
Que fais-tu? tu dégages.
En même temps, c'est quand même un move de, tu vois, de quelqu'un qui a très confiance en lui, hein. T'arrives en soirée, tu connais personne. Et ouais, les gars, La Rousseau. Tu oublieras, les bras en l'air, vous faites quoi maintenant?
Et toi, tu mettrais Avril Lavigne, là?
Mais en fait, c'est pas vraiment une chanson de la teuf, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc avec du kick sur tous les temps.
C'est vrai.
Ou c'est dansant et tout. Donc c'est aussi, je pense, ce qui fait que ce morceau est resté un tube un peu oublié aussi.
Oui, oui, oui.
C'est que t'as pas ce truc dansant de genre, ah non, attends, c'est génial.
Oui,
on va se danser là-dessus.
C'est ma chanson. C'est génial. Oui, c'est pas en mode, c'est ma chanson.
Enfin, il y a un truc de l'aigreur aussi qui vient avec l'âge où t'as l'impression d'affirmer tes goûts, d'avoir des choses que ce que t'écoutes, ça vaut quelque chose, tu vois, et que aussi ce que tu n'aimes pas, ça a de la valeur, genre.
Oui, oui, oui.
En fait, tu gardes tes goûts de merde pour toi et t'arrêtes d'en parler aux autres, quoi. Si quelqu'un est fan des Jonas Brothers, qui écoute ça, et puis c'est très bien, tu vois.
Ouais, mais justement, tu vois, enfin. Moi, je comprends qu'on m'ait dit tout le temps de fermer ma gueule par rapport aux Jonas Brothers, mais c'est parce que ça peut être un amour tellement fort comme celui que tu peux avoir pour cette chanson, voilà.
Putain, c'est pas ma chanson préférée du monde.
Non. mais moi non plus. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi j'ai explosé mes records. Mais c'est parce qu'elle est très dansante et que genre pour aller au boulot le matin quand j'étais en stage à l'époque, genre je la mettais à fond. Mais c'est parce que c'est un amour qui est quand même, tu vois, il est légitime, parce qu'il est réel, tu vois. Donc, t'as quand même envie d'en parler. Parce que s'il s'agissait que de nostalgie ou je ne sais quoi, mais si c'est une chanson qui, à l'heure actuelle, te fait sentir des choses, parle-en, tu vois. Peut-être gonfle pas tout le monde, mais tu peux en parler, quoi.
Ouais, c'est... Alors, en même temps, d'un côté, je me dis, je sais pas si c'est une chanson qui vaut vraiment le coup de la faire écouter aux autres, et en même temps... je vois l'effet que ça a eu sur moi, le fait qu'une pote à moi la mette, donc c'est tout le paradoxe de ça, c'est que je me verrais jamais aller voir quelqu'un et lui dire, mec, faut que t'écoutes ce morceau, c'est vraiment de la bombe. Ça vient de sortir il y a 20 ans, là, c'est génial, tu vas voir.
Ça vient de sortir il y a 20 ans. Et en même temps, voilà, c'est ça le paradoxe du truc, c'est que toi, tu l'as découvert parce que ta pote s'est dit, faut que Voyou, il entende ça, quoi.
Mais si ça avait pas été un morceau de mon adolescence, j'aurais rien fait, tu vois, j'aurais regardé qu'est-ce que c'est ton truc.
Qu'est-ce que tu joues?
Mais j'imagine que la radio que j'écoutais à l'époque, où ça passait à la radio, devait la diffuser beaucoup aussi.
Oui.
Il y a aussi ces trucs-là, et puis, enfin, c'est quand même une autre époque, hein. Maintenant, le streaming et tout, putain, là, ça y est, j'ai 87
boomer.
Ans d'un coup. Boomer! Je sais pas ce que ça veut dire, boomer! Est-ce que c'est pas le comble du boomer?
C'est ça.
Mais pourquoi je dis ça? Oui, voilà. En fait, t'achetais des magazines et dedans t'avais un CD dans un truc en carton avec une compile du magazine. Et du coup, t'écoutais ces trucs-là, il y avait deux chansons que t'allais trouver bien dedans, maximum, et puis le reste, c'était un peu de la daube.
Oui, oui, oui.
Mais tu laissais défiler sur ton lecteur CD, donc peut-être que c'était sur une compile d'un magazine de merde que j'achetais à l'époque.
Ouais.
Et que du coup, le morceau passait, et puis je l'entendais, et j'étais là, ah, bah, j'aime pas ça, Berk. Mais je l'écoutais quand même, voilà.
Ouais, mais je vois très bien. Mm. Bah, écoute, merci beaucoup, alors.
Avec plaisir.
Et à bientôt.
À bientôt.
Bye.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.